Nous le croyons de tout notre cœur que ceci est le jour du salut, le jour de la grâce, le temps favorable, agréable dans lequel nous pouvons vivre et expérimenter spécialement la grâce d'avoir été informé par Dieu de ce qui est actuellement d'actualité dans son plan de salut et que nous avons ainsi été mis à jour. C'est tout simplement une grâce que nous n'avons pas méritée. Nous ne l'avons pas cherchée. Cela nous est simplement tombé dessus. Frère Rousse l'a mentionné ces derniers jours. Je peux dire la même chose. Je ne me souviens pas d'avoir vécu des jours aussi merveilleux en communion avec tant de frères ici en ce lieu. Nous sentons que nous sommes plus étroitement liés les uns aux autres, que nous sommes même plus intimement liés au Seigneur et les uns aux autres, et que nous nous comprenons mieux les uns les autres, que nous comprenons mieux la parole et le Seigneur. Nous pouvons certainement dire que nous ne nous sommes pas arrêtés, mais que nous avons pu avancer spirituellement grâce à la grâce de notre Seigneur. Je pense que tous les frères pourront témoigner de la même chose. La plupart d'entre eux sont déjà repartis. Il n'en reste plus que quelques-uns. Et demain, nous donnerons spécialement à nos frères du Zaïre la possibilité de témoigner de ce que ces jours ont signifié pour eux. Pour nous qui annonçons la parole, les journées d'enseignement et d'immersion dans la parole sont très importantes, surtout si nous savons ou attendons avec ferveur que nous soyons un seul cœur et une seule âme et que nous parvenions à la même foi et à la même connaissance et que nous voyons les choses comme Dieu les voit. C'est vraiment notre souhait le plus sincère que nous ne nous contentions pas de voir, mais que nous voyons comme Dieu le voit. Pas seulement entendre, mais entendre comme Dieu veut que nous l'entendions. La remarque de Frère Rousse était également chaleureuse et intime, à savoir que nous ne sommes pas ici à nous ennuyer, mais que nous sommes dans la chose. Nous participons, nous écoutons, nous recevons et croyons la parole de Dieu en tant que parole de Dieu et que nous faisons l'expérience avec Dieu personnellement. Je pense ici à nos deux frères qui m'ont déjà rendu visite au bureau de Saarbrücken ou bien des environs, avec le désir profond de faire connaître dans tout l'environnement ce que Dieu a fait dans cette génération. Et je crois que nous sommes tous de plus en plus pressés de faire savoir à notre génération ce que le Seigneur a fait. Cela nous tient vraiment tous à cœur et Dieu nous en donnera encore l'occasion. Il ne jugera pas cette génération sans avoir donné un avertissement préalable. Cela a toujours été dans le plan de Dieu ainsi. Il donne d'abord la possibilité de croire et de se repentir et de le suivre et ensuite et de le servir et ensuite seulement vient le jugement. Ainsi nous croyons donc que cela se produira également à cette époque. Dieu a appelé des individus à sortir. La moisson sera encore récoltée. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Je suis en effet convaincu que la moisson n'a pas encore été récoltée. Elle est encore dehors. Ce sont des temps et des jours de préparation pour pouvoir ensuite, le moment venu, récolter la moisson. Dieu placera encore une fois les vérités bibliques sur le chandelier. Il lancera encore une fois son appel. Vous, mon peuple, sortez, ne touchez rien d'impur, séparez-vous et vous serez ainsi mes fils et mes filles. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons que Dieu a toujours eu un reste qui a été sauvé par l'élection de la grâce. Et dans cette génération aussi, Dieu a un reste qui est appelé à sortir, qui est préparé pour voir ensuite l'achèvement. Êtes-vous convaincu que le retour du Seigneur aura encore lieu dans notre génération? En êtes-vous convaincu? Vraiment, vraiment de tout votre cœur? Moi aussi. Moi aussi. Les critiques, et nous avons actuellement un spécialiste en République fédérale qui a écrit des volumes. Les critiques n'ont pas compris que même ce qui concerne la période du Nouveau Testament, c'est justement qu'il y avait encore près de 2000 ans devant eux à l'époque où les apôtres vivaient. Et ils pensent que le Seigneur s'est trompé, que les apôtres se sont trompés, égarés parce qu'ils comptaient déjà à l'époque sur le retour du Seigneur. Ils ne se sont pas trompés, pas plus qu'ils ne se soient égarés. Ils devaient écrire de manière à ce que la prédication puisse avoir lieu et est apportée pendant tout le temps de grâce. Ils devaient déjà écrire à l'époque pour nous aujourd'hui qui allions vivre dans cette génération afin que nous sachions ce qui allait se passer maintenant. Mais les non-croyants n'ont pas accès à ces choses. Ils ont trop d'intelligence et pas assez d'esprit. Trop de livres et pas assez de Bible. Et c'est là la grande difficulté, que le Seigneur soit purement et simplement remercié de tout notre cœur et de toute notre âme, de ce que nous pouvons compter parmi ceux qui croient de tout leur cœur. Croire comme l'ont dit les Écritures. Quant aux critiques, ils ne peuvent que nous aider à croire encore mieux, à être encore plus convaincus. Nous ne pouvons que les plaindre s'ils n'ont pas compris le plan de salut de Dieu. Frère Rousse a choisi deux cantiques magnifiques et nous a déjà interpellés. « Oh, allume, Esprit du Seigneur, comme tu l'as fait autrefois. Allume une fois encore, de près ou de loin, un feu puissant. Fais que le cœur de chaque disciple s'enflamme d'un amour ardent et présente-le au monde entier en témoignage. » C'est vraiment notre souhait et notre prière à tous. Il y a, comme je l'ai dit, des gens que le Seigneur amène. J'ai apporté une lettre d'un jeune homme qui est venu à l'assemblée le dimanche à Zurich. Si je me souviens bien, un enseignant de profession. Et il écrit ici, je ne lis que quelques lignes, il me tient à cœur après le grand et édifiant message du dimanche 26 février à la maison du peuple, de vous remercier de tout cœur pour le service rendu au Seigneur. C'était la première fois que j'y assistais, mais j'avais déjà pu être édifié et éclairé par quelques écrits du frère béni William Branham. C'est merveilleux et je n'ai absolument aucune résistance ou contestation. Puis vient une phrase magnifique. Le Seigneur Dieu a fait que la lumière se fasse en moi. Qu'il en soit remercié. Donc, nous voyons que le Seigneur appelle encore. Des gens viennent pour la première fois et un jeune homme très gentil, plus loin, il écrit qu'il avait un appareil et qu'il voulait enregistrer la prédication pour pouvoir en juger plus tard. Et voilà que Dieu a parlé à son cœur et comme il en témoigne lui-même, la lumière s'est faite en lui aussi. Notre Seigneur dit, « Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Je voudrais lire aujourd'hui quelques passages de l'Écriture pour nous rappeler la rédemption accomplie afin que la joie dans le Seigneur devienne notre force et que nous soyons soulevés par lui de cette paralysie placée sur un fondement plus élevé et béni à nouveau et que nous le vivions à nouveau. Avant d'aborder l'épître aux Romains, je voudrais brièvement évoquer Proverbes 10, versets 17 et 18, qui sont très importants. Ce ne sont pas seulement des proverbes, mais la sagesse divine y est cachée et révélée aussi à ceux qui prennent la parole à cœur et se laissent interpeller par elle. Proverbes 10, verset 17. Celui qui écoute la réprimande est sur le chemin de la vie. Mais celui qui ignore les avertissements s'égare. Celui qui cache la haine au fond de lui a des lèvres menteuses. Et celui qui répand le mal raconté dans le dos de quelqu'un est un insensé. Tout le monde devrait lire les proverbes. Et ils sont particulièrement favorables à tous les jeunes qui souhaite être préservé de beaucoup de choses. La sagesse contenue dans les proverbes est suffisante pour toute une vie. Venons-en à notre thème sur notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, sur la rédemption accomplie, sur ce qui a été mis à notre disposition à Golgotha, ce qui s'y est passé pour nous là-bas. Nous avons certainement déjà lu et relu ces passages, mais la question surgit alors de savoir si nous avons vraiment pu recevoir cela, accepter cela dans la foi et remercier Dieu ensuite pour ce qu'il a fait pour nous et en nous. Je commence par Romains, chapitre 4, la parole bien connue du verset 24. Romains, chapitre 4, du verset 24. Mais aussi à cause de nous, car cela nous sera imputé à nous aussi, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus. Lui qui a été livré à la mort à cause de nos transgressions et qui est ressuscité à cause de notre justification. Les deux choses se sont produites. Nos transgressions nous ont été ôtées. Notre condamnation, notre péché, notre culpabilité, nos fautes, toute la malédiction qui nous avait frappés ont été placées sur lui, sur l'agneau de Dieu, dont Jean a ensuite dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La loi nous avait condamnés et c'est pourquoi il fallait que Christ soit placé sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour prendre sur lui la malédiction de la loi et pour nous faire passer ensuite de la loi à la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, même si nous commettons une faute que la loi condamne. La loi ne peut plus nous condamner parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et je pense que c'est précisément ce point que nous devons mettre en avant pour priver l'ennemi de la possibilité de frapper encore et encore, de nous tirer vers le bas et peut-être de nous asservir comme si nous étions encore sous la loi. Christ est la fin de la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Il a satisfait à toutes les exigences que nous ne pouvions pas satisfaire. Il nous a ainsi rachetés. Il nous a ainsi délivrés, rachetés et placés dans la grâce. Nous ne pouvons avoir qu'une seule chose, soit la loi, soit la grâce. Et celui qui lit spécialement l'Épître aux Hébreux et l'Épître aux Romains, puis les Épîtres aux Galates, en lisant ces chapitres, on a un aperçu de ce que Dieu a réellement fait en Christ, réellement. C'est-à-dire qu'il nous a offert une rédemption totale, une réconciliation avec Dieu qui était en Christ. Dieu qui était en Christ et qui a réconcilié le monde avec lui-même, réconcilié le monde avec lui-même. Il est écrit ici qu'il l'a livré à la mort à cause de notre transgression et qu'il est ressuscité à cause de notre justification. Tout ce qui devait et pouvait arriver s'est réellement produit. Lorsque notre Seigneur s'est exclamé, tout est accompli, tout est accompli. C'était en effet accompli. Notre culpabilité et notre péché étaient expiés et pardonnés. Un autre sacrifice n'est plus nécessaire pour le péché. Il s'est sacrifié une fois pour toutes et est entré dans le sanctuaire céleste avec son sang saint afin d'intercéder maintenant pour nous en tant que souverain sacrificateur. Si quelque chose n'était pas juste ou n'était pas juste devant Dieu. Ce n'est pas Moïse qui nous accuse par la loi. C'est le Christ qui nous acquitte, lui qui a accompli la loi et fait venir la grâce sur nous. Jean a déjà pu dire, c'est de sa grâce ou de sa plénitude que nous avons reçu grâce sur grâce. Paul a pris Abraham comme modèle, comme exemple, pour nous montrer qu'aucun homme ne peut y ajouter quelque chose, mais que tout cela est l'élection de Dieu, l'appel de Dieu, les promesses de Dieu, la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 24. Ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est accomplie en Jésus-Christ. C'est en lui, c'est lui que Dieu a offert dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi, afin de montrer sa justice. Parce que les péchés commis auparavant, pendant les temps de la longanimité de Dieu, étaient restés impunis jusqu'alors. Verset 26, il a donc voulu montrer sa justice dans le temps présent afin de paraître lui-même juste et de déclarer juste tout homme qui a la foi en Jésus. C'est ce que Dieu a fait. Et nous, nous devons nous élever dans la foi et non seulement tenir pour vrai ce que Dieu a fait, mais aussi le considérer par la foi comme nous ayant été donné, comme ayant été accompli à nous. Nous devons honorer Dieu par la foi. Il est en effet dit littéralement que celle-ci est un moyen d'expiation qui est efficace par la foi. Le verset 25 dans Romains 3. C'est lui que Dieu a offert dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi. Croyons-nous ou ne croyons-nous pas? Le repoussons-nous ou l'avons-nous réellement expérimenté personnellement? La justification, comme nous l'avons bien entendu dans la bouche de frère Branham, signifie que Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais rien fait qui nous aurait séparés de lui. Parfaitement justifié. Rien n'est imputé. Mais Dieu a tout expié, a tout pardonné et nous a donné une vie nouvelle, la vie éternelle. Mais cette chose que Dieu nous a offerte n'est efficace que par la foi. Et la foi vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous proclamons Jésus-Christ comme étant le crucifié, l'enseveli et le ressuscité, et que nous le plaçons au centre, comme il est écrit ici, et que nous témoignons qu'il est notre réconciliation. Il est notre réconciliation. Et c'est pourquoi celle-ci n'est efficace que par la foi. L'incrédulité nous laisse dans notre ancien état, notre ancienne nature. Mais la foi nous sort, nous en fait sortir et fait des enfants d'hommes, des enfants de Dieu. L'incrédulité tremble et se dit, oui, Dieu me pardonnera-t-il encore? Et la foi dit, Dieu m'a pardonné. Dieu a expié. Dieu s'est uni au monde. Au chapitre 4, verset 7, se trouve le glorieux témoignage. Romains, chapitre 4, verset 7. Bienheureux ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Ils ne le seront pas d'abord, ils ont été couverts. Et ici le terme bienheureux est ici utilisé. Si un homme est bienheureux, on devrait pouvoir le voir sur son visage. Un homme qui est heureux, qui est bienheureux, il n'a pas besoin de le dire. Il a une raison quelconque. Il se réjouit. On le voit sur son visage. Il s'est passé quelque chose qui l'a réjoui. L'homme ne se réjouit pas parce que rien ne s'est passé, mais il se réjouit quand ou parce que quelque chose s'est passé. On dit ici, bienheureux ceux, verset 7. Regardons donc les uns et les autres, ce que cette béatitude nous montre. Montre en nous, cette béatitude que nous avons expérimentée, montre en nous et ce qui nous entoure. Bienheureux, dit ici la parole de Dieu, ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Nous voulons-nous pas l'accepter aujourd'hui dans la foi et dire, Seigneur, tu nous l'as promis et donné dans ta parole. Nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Et nous regardons loin de nous-mêmes et regardons le Seigneur, au Seigneur. Et nous le voyons comme le crucifié, comme l'homme de douleur qui s'est chargé de notre culpabilité et de notre péché. Et croyons de tout cœur, comme il est écrit ici, que lui et son sang versé sont un moyen d'expiation efficace. Il doit y avoir un effet là où les gens deviennent croyants. Il y a un effet là où ils font l'expérience de la réconciliation avec Dieu, là où ils reçoivent le pardon. Il doit y avoir un impact. On ne peut pas rester assis et se contenter de regarder la chose de loin et d'écouter, d'entendre. Non, il faut qu'une source jaillisse dans le cœur. L'Esprit de Dieu doit nous révéler Golgotha. Et si nous l'avons alors saisi par la foi, ainsi de telle sorte qu'il soit un moyen d'expiation efficace, pas seulement une expiation qui ne serait pas efficace, mais une expiation qui a des effets sur ceux qui croient de tout leur cœur à la rédemption accomplie. Le frère Gaidach est celui d'entre nous qui met le plus l'accent sur la foi. Et nous devrions vraiment tous nous en souvenir. Seule la foi est la victoire qui a vaincu le monde. Dieu a vraiment tout placé sur le fondement de la foi. Celui qui ne croit pas sera confondu. Celui qui croit ne peut pas être confondu. C'est ce qui est écrit. Nous devons vraiment décider si nous voulons croire Dieu ou si nous voulons nous faire du mal ainsi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous voulons croire Dieu de tout notre cœur, croire aussi en ce qui est écrit ici. Romains 3, 25, il relit, c'est lui que Dieu a offert dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi. Il s'agit donc du Golgotha, pas de ce que dit ou fait un prêtre ou un pasteur. Ce n'est pas un acte soi-disant sacré, un acte de Dieu. Non, c'est ici une action de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, Dieu l'a placé dans son sang comme un moyen efficace par la foi. Comme un moyen d'expiation efficace par la foi. Pour autant que nous venions à croire, la chose devient efficace. Celui qui ne croit pas, Dieu ne peut pas non plus l'aider avec tout son amour, sa patience et sa grâce. Dieu ne peut aider que celui qui croit, comme le dit les Écritures. Vous pouvez lire Jean 3, verset 16. Vous pouvez lire de nombreux passages bibliques. Le plus connu, celui qui va droit au cœur, se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 24. Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous allez mourir dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, vous voyez de quoi il s'agit ici? Car si vous ne croyez pas que je le suis, vous allez mourir dans vos péchés. Mais si nous croyons qu'il est le « je suis » et que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui même, alors nous ne pouvons pas mourir dans notre péché. En effet, nous avons été retirés de notre péché, de la nature du péché. Oui, plutôt, notre péché lui-même nous a été ôté et a été placé sur lui, et pas seulement le péché, mais aussi le châtiment. Le châtiment a été placé sur lui. Aujourd'hui, un effet doit se produire au milieu de nous. Parmi nous, un effet de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Aujourd'hui, nous voulons honorer Dieu par la foi. Aujourd'hui, nous voulons nous ranger du côté du vainqueur de Golgotha et défier par la foi l'ennemi qui a été vaincu. Ce qui est écrit ici est vrai. Dieu, c'est lui que Dieu a offert dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi. Aujourd'hui, qui a déjà fait l'expérience de cet effet de l'expiation, de l'effet du moyen d'expiation efficace par la foi? Aujourd'hui, du premier au dernier, chacun doit être réellement saisi. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Et s'il est écrit, bienheureux ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts, demandons-nous les uns aux autres, croyons-nous de tout notre cœur que Dieu a pardonné nos transgressions et couvert nos péchés. Oui ou non? Oui, amen, amen. Nous le croyons de tout notre cœur. Et vous verrez que la foi met cette expiation en action et la rend efficace, comme nous l'avons lu. Le verset 8 dit, Romains 4, verset 8, « Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. » Ni même imputé, même s'il l'a fait. n'est pas imputé. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Les hommes peuvent imputer. Dieu ne peut pas faire une deuxième facture. Il a fait une facture et il a fait une fois pour toutes. Il a fait ses comptes une fois pour toutes. Ou doit-il faire le compte une deuxième fois? Ce n'est pas possible. Dieu a fait ses comptes une fois pour toutes. Il a imputé une fois pour toutes. Le croyez-vous? Moi, je le crois. Il y avait une grande facture à payer. La dette du monde entier devait être payée. Personne n'a pu payer cette facture. Il l'a payée. Il l'a réglée. Et puis, il a fait quelque chose que je trouve très beau. Il y avait une lettre de condamnation. Et vous savez que lorsqu'une lettre de condamnation est émise, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Et pour que le diable ne se contente pas de saisir cette lettre de condamnation et de la brandir ensuite devant les fidèles, les croyants, la lettre de condamnation et les actes ont été effacés, déchirés et crucifiés à la croix. Amen. Amen. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est le salut. Si le diable vient et écrit diverses choses sur la lettre de condamnation, vous pouvez lui dire, peut-être voulez-vous que je vous le lise, mais je crois que tous connaissent bien les Saintes Écritures et savent que réellement, la lettre de condamnation, les actes qui nous condamnaient, ont été effacés et déchirés. Pas seulement, qui sait où est-ce que c'est écrit? Je l'ai lu il y a quelques jours. Non seulement le péché a été pardonné, mais aussi la reconnaissance de dette, la lettre de condamnation, les actes qui nous condamnaient, déchirés, effacés, crucifiés. Colossiens chapitre 2, je l'ai sous les yeux. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens 2, 13. Vous aussi qui étiez autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a aussi fait revivre ensemble avec lui. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Que nous étions en lui, que nous avons été crucifiés avec lui, que nous avons été ensevelis avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Marcher en nouveauté de vie. Vous aussi qui étiez autrefois, il relit le verset 13, qui étiez autrefois morts dans vos transgressions. Nous ne les nions pas du tout. Elles étaient là en abondance. Mais elles ne sont plus là. Amen. Elles ont été prises au clés de nous. Vous aussi qui étiez autrefois, il relit le verset 13, autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a aussi fait revivre ensemble avec lui en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Par grâce, toutes nos transgressions. Remarquez-vous ce qu'est la grâce? La grâce de Dieu s'est manifestée par le pardon, dans le pardon. C'est ce que nous voyons ici. Au verset 14. En ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Il l'a fait disparaître. Cloué à la croix, il ne peut plus être retrouvé. L'acte ne peut plus être retrouvé. La lettre non plus. Il ne peut plus être reproché à personne. Ces choses ne peuvent plus être reprochées à personne. Ensuite, il a également dit au verset 15, « Puis, ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement exposées au carcan, triomphant d'elles en lui par la croix. » Ça, c'est la rédemption, c'est la grâce, c'est le salut et c'est la réconciliation avec Dieu. Bienheureux ceux dont les transgressions ont été pardonnés. Et dont les péchés ont été couverts. Pour nous, en tant qu'êtres humains qui sommes croyants depuis longtemps, cela doit encore être annoncé de cette manière. Et pourquoi? Parce que nous voyons probablement pas encore la rédemption par révélation comme Dieu la voit. Nous voyons souvent encore dans notre ancien état. Dieu nous voit par Golgotha, dans un état nouveau. Dieu ne voit pas ce que le péché a fait de nous. Dieu voit ce qu'il a fait de nous par l'expiation et la rédemption, à savoir des fils et des filles de Dieu, en réparant la chute. Par l'intermédiaire d'Abraham, Dieu nous a donné, par le Nouveau Testament, une indication, un enseignement, une leçon de choses d'une manière tout à fait merveilleuse. Il est dit de lui, dans Romains 4, verset 20, « Néanmoins, en ce qui concerne la promesse de Dieu, Romains 4, verset 20, il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais au contraire, il devint de plus en plus fort dans la foi en rendant gloire à Dieu. » Verset 21, « Et vivait dans la ferme conviction que Dieu était aussi capable d'accomplir ce qu'il avait promis. » Ce qu'il avait promis. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Et cela dans l'ancienne alliance, si vous lisez attentivement, vous constaterez qu'Abraham n'avait pas de croyants autour de lui, ni de parents croyants. Il était lui-même originaire d'Ur en Chaldée et ses ancêtres servaient des dieux. Abraham a pris un tout nouveau départ au moment de sa rencontre avec le Seigneur Dieu. Il a cru Dieu. Aujourd'hui, chacun peut prendre un nouveau départ avec Dieu. Mais il doit croire. Et avant que nous puissions croire, la promesse de la parole doit nous être révélée et montrée. Dans Romains, au chapitre 5, au premier verset, il est dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons été justifiés par la foi. Il y a des gens qui croient toute leur vie et ils ne savent pas s'ils sont justifiés ou non, s'ils ont la paix ou non. Il s'agit de la foi qui vient de la prédication de la parole de Dieu. De la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. De la foi selon l'Écriture. Comme il est écrit ici. Étant donc justifiés par la foi. Trop simple pour les hommes qui veulent toujours faire quelque chose pour pouvoir subsister devant Dieu. Qu'est-ce que l'homme a pu faire? Absolument rien. De son côté, Dieu a tout fait et a placé toute l'œuvre de rédemption sur le fondement de la foi. Celui qui croit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas et ne sera pas confondu. Celui qui ne croit pas mourra dans son péché. Mais celui qui croit est justifié et reconnaît qu'il a été pris du péché, retiré du péché et transféré des ténèbres dans le royaume du Fils de l'amour, du Fils de Dieu, comme il est d'ailleurs écrit, Colossiens 1, verset 13, « Combien de fois devrons-nous encore nous crier cela, les uns aux autres. Combien de fois faudra-t-il encore nous le dire? Quand serons-nous bienheureux d'avoir été graciés par Dieu, d'avoir reçu la grâce de Dieu? Quand est-ce que nous nous en réjouirons? Quand est-ce que la béatitude, la félicité envahira-t-elle notre âme? Quand est-ce que la joie céleste de ce que Dieu a fait pour nous s'abattra-t-elle sur nous? Bien-aimés, nous devons être arrachés de l'incrédulité à l'incrédulité et placés dans la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et celui qui croit que Dieu est là et qu'il s'approche de lui, il le lui rendra, il le récompensera. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Nous ne croyons pas seulement que Dieu est là, que Dieu existe. Nous croyons que Dieu était en Christ et qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. Nous croyons que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes et tous nos péchés et qu'il nous a réconciliés avec lui-même. Vous ne voulez vous en voulez encore plus? Cela suffit. Et si nous nous en réjouissons et en sommes reconnaissants, alors l'Esprit de Dieu viendra sur nous. Nous tous. Et les deux cantiques allaient dans ce sens que l'Esprit de Dieu doit venir sur nous. Bien-aimés, je ne suis pas un nouveau venu dans le royaume de Dieu. J'ai vécu pas mal de choses. La plupart des baptêmes du Saint-Esprit ont lieu là où des personnes devenues croyantes commencent à se réjouir sincèrement de la rédemption, où elles commencent à louer et à louer encore le sang de l'agneau, à rendre grâce et à remercier encore, encore, à louer et à louer encore et remercier encore, à se réjouir dans le Seigneur. Et alors, et pendant qu'ils se réjouissent dans le Seigneur et de la rédemption et qu'ils louent Dieu et qu'ils commencent à exulter et à entrer dans l'adoration, l'adoration, alors l'adoration s'étend soudain un peu plus haut que ce que nous pouvons peut-être élevé et Dieu vient à notre secours et notre esprit est élevé dans l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu vient sur nous et nous commençons à le louer et à le louer dans d'autres langues. Ce n'est pas en demandant ou en suppliant l'Esprit que cela se produit de nous remplir de venir sur nous, mais en louant, en adorant, en étant reconnaissant pour ce que Dieu à faire pour nous et en nous. Et vous verrez que cela mène au but, car c'est là que commence la foi. La foi en l'œuvre de la rédemption accomplie. La foi en la réconciliation. Et alors, elle devient efficace. Elle devient un moyen d'expiation efficace pour nous tous. Et si nous avons été réconciliés avec Dieu, alors ce qui nous séparait a bien été effacé, ôté. Il y a des gens qui se réconcilient après s'être disputés. Et nous étions en conflit avec Dieu. Il n'y avait aucun lien, aucun dialogue possible. Mais ensuite, il y a eu la glorieuse réconciliation sur la croix à Golgotha. Si nous commençons aujourd'hui, en cette heure, à remercier Dieu du fond du cœur pour ce qui s'est passé à Golgotha, l'Esprit de Dieu viendra sur nous tous. Non seulement non seulement les transgressions ont été pardonnées, mais pour notre justification, notre Seigneur est ressuscité. Si seulement il avait été crucifié, mort et enterré et enseveli. Nous aurions pu nous laisser enterrer, nous aussi, avec notre foi. Il est mort. Il a été enterré, enseveli. Il est descendu en enfer. Il a mené la prison en captivité. Il a vaincu la mort et l'enfer. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Mort pour nous pardonner. Ressuscité pour nous montrer la justification que Dieu nous a apportée et que Dieu a opérée pour nous. Avons-nous compris cela? L'avons-nous compris? Il a été crucifié dans sa faiblesse d'homme, car Dieu ne peut pas mourir. Il s'est même exclamé, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Il est mort, il mourut en tant que fils de l'homme pour l'amour des enfants des hommes. Mais il était le fils de Dieu pour faire de nous des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas l'expliquer, mais nous le croyons de tout notre cœur. Mais après sa résurrection, les choses se sont présentées différemment. Dès lors, il ne s'est plus révélé aux non-croyants, seulement aux siens. Il avait dit auparavant, « Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Seuls les croyants l'ont vu après sa résurrection. Les non-croyants ne l'ont pas vu. Il en est de même aujourd'hui. Mais le point dont il s'agit est le suivant. Que nous reconnaissions et acceptions une fois pour toutes ce que Dieu a fait. Ne commençons pas et ne continuons pas à vouloir atteindre le but en nous et avec nous, ou bien d'une manière ou d'une autre, à travailler sur nous-mêmes, atteindre le but par nous-mêmes, non. Mais simplement croire que cela s'est déjà produit pour que l'expiation puisse être efficace. Oui, que la foi entraîne l'effet et le rend manifeste dans notre vie. La foi, sans les œuvres, est morte à elle-même. Celui qui croit en Jésus-Christ, le ressuscité, n'a pas une foi morte, mais une foi vivante. Le Seigneur est mort à cause de nos péchés. Son sang a couvert la culpabilité pour notre justification. Il est ressuscité afin de nous donner la vie nouvelle par grâce. Dans la mort, il a réglé ses comptes avec l'ancienne vie, avec la culpabilité, avec le péché, avec les fautes. Il a réglé ses comptes avec tout. Il a tout pris sur lui, en prenant tout sur lui. Et il est allé à la mort avec ça. Mais il a aussi tout laissé là-bas. Il a pris toute la culpabilité, tout le péché, toute la malédiction. Il a tout pris. Il est mort avec ça. Mais c'est resté dans la mort. Et ensuite, il est ressuscité pour notre justification. Pour nous montrer que c'est le même Jésus qui, bien que mort, est ressuscité. Et quand il dit, ne me touche pas. Il s'était passé quelque chose. Il était ressuscité pour nous montrer que nous avons part à sa vie de résurrection. On pourrait aller très loin dans ses pensées, aller très profond. Nous voulons aujourd'hui croire et accepter de tout cœur ce que Dieu a fait en Christ. Et ensuite nous en réjouir et le louer et ne plus permettre à Satan de toujours nous tirer vers le bas et de nous dire « Tu as fait ceci et cela. » Ce n'est pas vrai du tout. Satan est un vieux menteur. Dieu est véritable. Et nous ne croyons pas ce que Satan nous fait croire. Nous croyons ce que Dieu a fait en Christ. Et si Satan nous dit « tu es coupable », alors on peut, si on veut s'engager dans une discussion, dire « oui, c'était autrefois, mais ce n'est plus le cas. Nous ne sommes plus coupables, nous étions coupables. Nous avons été sauvés. » Comprenez-vous la différence? Nous étions pécheurs, nous étions coupables, nous étions perdus, nous étions séparés de Dieu. Tout cela était vrai. Mais depuis Golgotha, tout cela n'est plus vrai. Depuis Golgotha, ceux qui étaient éloignés ont été rapprochés. Les ennemis sont devenus des amis. Les perdus sont devenus des sauvés. Les enfants des hommes sont devenus des enfants de Dieu grâce à Golgotha. Et si l'ennemi vient et dit tout et n'importe quoi, vous pouvez bien l'admettre et dire oui, c'était. Mais ce n'est plus. Ce n'est plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout est devenu nouveau. La plupart des croyants veulent aller un peu trop loin. Ils veulent déjà que les jambes soient nouvelles, les mains nouvelles et le corps entier nouveau. Cela nous conviendrait, n'est-ce pas? Mais nous devons encore attendre un peu avant que cela n'arrive. Mais il y a une chose que je crois de tout cœur. Que Dieu nous a offert une nouvelle vie, la vie éternelle par grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait passer de la mort à la vie. Et que nos fautes ont été pardonnées, nos péchés expiés, que tout a été réglé et que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu devant lui. Et si l'ennemi nous montre encore du doigt, maintenant, je veux dire, ne vous laissez pas piéger par lui, cela ne fait pas de bien. Mais vous pouvez dire une chose, Satan, arrière de moi, et confessez la parole de Dieu. Je suis racheté, je suis justifié. N'émets pas une nouvelle lettre de condamnation. La lettre de condamnation a été crucifiée à la croix. Elle a été ôtée. Et tout comme Dieu nous a pardonné en Christ, nous pouvons aussi nous pardonner les uns les autres de la même manière. Et puisque nous en sommes déjà au point du pardon, laissez-moi vous dire que seul celui qui a vraiment reçu le pardon de Dieu peut pardonner, et cela de tout son cœur, à son frère et à sa sœur. Celui qui en veut encore, qui impute, qui culpabilise et qui dit « écoute ceci et cela », une telle personne n'a pas encore fait l'expérience de ce que cela signifie d'avoir reçu la grâce de Dieu et d'avoir reçu le pardon. Nous devons nous recevoir les uns les autres comme Dieu nous a acceptés en Christ, nous a reçus. À qui le Seigneur, à qui le Sauveur a-t-il fait des reproches de l'un de vous? Qu'a-t-il dit, qu'a-t-il pris entre deux et... Qui a-t-il pris entre deux et vous a-t-il pressé? Et comme le font, pardon, certains dans leur fonction, n'est-ce pas? Qu'a-t-il fait? Il nous a réconciliés avec Dieu. À qui a-t-il fait des reproches? À qui? D'entre vous, à qui? Comme nous pouvons être reconnaissants pour la rédemption accomplie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et parce qu'il en est ainsi, nous pouvons être bienheureux et bénis. Nous pouvons nous réjouir de tout cœur que notre culpabilité soit couverte, que notre péché soit pardonné, que nous soyons rachetés, délivrés, affranchis. Je peux m'en glorifier, rachetés par le sang du Sauveur. Par le sang du Sauveur. Comme un auteur compositeur le chante. Aujourd'hui, nous voulons vraiment voir Golgotha d'un point de vue divin et laisser l'expiation dans son sang devenir effectif, efficace par la foi. Et c'est par la foi que nous honorerons Dieu. Et c'est la foi qui fera des miracles. Oh, si tu pouvais croire, tu verrais des miracles. Ton Jésus serait toujours à tes côtés. La promesse, la foi et l'accomplissement vont toujours de pair. Permettez-moi de lire ce magnifique verset de Romains 5. Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été tenue pour pécheur. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera tenue pour des justes. Comme nous l'avons dit, Dieu a réparé les dommages. Nous avons seulement besoin de croire. Il ne nous reste plus qu'à croire, à accepter et à nous réjouir. Ne laissez pas l'ennemi vous voler quoi que ce soit ou vous dérober quoi que ce soit. Vous soufflez quelque chose. Oui, peut-être qu'il n'y a plus de grâce pour toi. Ou bien alors, peut-être qu'il n'y a plus de grâce pour moi. Et ainsi de suite. Vous savez que l'ennemi vient avec les pensées les plus diverses. Il vient à l'un d'une manière et à l'autre d'une autre. Repoussez-le. Ne l'écoutez pas du tout. Restez du côté de Dieu. Tenez bon dans la foi et résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Nous ne devons pas donner la parole à l'ennemi, mais croire de tout notre cœur. Et confesser de notre bouche ce que Dieu a dit dans sa parole. Comme nous l'avons remarqué plus tôt, l'ennemi est un menteur depuis le commencement. D'abord, il nous a entraînés dans sa ruine, et ensuite, après que nous avons été rachetés, il ose encore nous montrer du doigt. Non, c'est fini. L'ennemi est vaincu. La tête du serpent est écrasée. Nous sommes rachetés. La dette est payée. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'expiation est devenue efficace. Qui voudrait qu'il devienne efficace? Si vraiment efficace, vraiment si efficace, de l'intérieur en nous. Devenir efficace à tel point que l'ennemi devrait se rendre compte que ici il ne peut plus rien faire. Ici, Dieu a fait quelque chose. Et je vais vous dire ce qu'il en est. Là où Dieu a vraiment fait quelque chose et l'a produit, l'a opéré, là, l'ennemi ne pourra plus rien faire. Il essaiera de le faire. Il essaiera encore et encore. Il doit échouer. Il a déjà échoué. Il est déjà vaincu. Seule l'incrédulité lui donne du courage. L'avez-vous compris? Seule notre incrédulité donne encore du courage à l'ennemi vaincu pour nous prendre un peu entre deux feux avec un échange de coups. La foi est du côté de Dieu. La foi se tient là où Dieu nous a placés. La rédemption totale et la réconciliation par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienheureux ceux dont Dieu a pardonné les transgressions. Est-ce qu'il t'a pardonné? Alors tu es bienheureux. Bienheureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Est-ce qu'il te l'a imputé? Pas à moi. À toi? À toi non plus. Il ne pouvait pas nous les imputer Il suffit d'une facture pour. Et elle a été réglée. Elle n'a pas été jetée à la corbeille à papier. Elle a été crucifiée à la croix avec Christ, notre Seigneur. Clouée à la croix avec Christ, notre Seigneur, qui en tant qu'agneau sacrifié, en tant qu'agneau sacrifié, en tant qu'agneau de Dieu, il a donné son sang et sa vie pour notre réconciliation, afin que la vie divine qui était en lui puisse ensuite être dans ceux qui sont réconciliés avec Dieu et rachetés. L'expiation est efficace par la foi aujourd'hui. Nous voulons croire comme le dit l'Écriture, et demander au Seigneur de nous pardonner. Là où nous avons vacillé et chancelé, là où nous n'avons pas toujours persévéré dans la certitude de la foi, et où nous avons ainsi attristé le Seigneur, rendons gloire à Dieu en croyant à ce qu'il a fait pour nous dans l'amour et la miséricorde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré de lui seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pas la religion, la foi en Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, Dieu est devenu notre sauveur. Comme nous l'avons souvent dit, celui qui veut vraiment rencontrer Dieu ne peut pas le chercher n'importe où. Il doit le rencontrer en Jésus-Christ. Il était le seul à pouvoir dire: celui qui me voit, voit le Père. Dieu était en Christ et nous a réconciliés avec lui-même. Aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu, le remercier pour l'œuvre accomplie sur la croix à Golgotha. Lisez tranquillement ces passages des Romains et croyez ce qui y est écrit. Soudain, votre cœur se mettra lui aussi à louer et à exalter. Soudain, vous vous voyez tel que Dieu vous voit et vous êtes placé au cœur de la rédemption. Et Dieu nous voit à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est la réconciliation. Il est notre paix. Il est notre salut. Il est notre tout en tous. À lui, le Seigneur fidèle, qui s'est livré comme l'agneau de Dieu pour verser son sang saint en réconciliation pour la multitude. Qu'il agisse aujourd'hui, qu'il opère aujourd'hui par la prédication de la parole et par l'Esprit une foi aussi vivante. Celui qui, une foi aussi vivante, qui le loue, qui se tient sur un fondement élevé, qui peut adorer en esprit et cela de tout son cœur et de toute son âme. Croyez-vous tous ce que nous avons lu? Croyez-vous tous que nous sommes réconciliés, que nos fautes ont été payées, notre dette a été payée, qu'il est ressuscité pour notre justification? Aussi certainement qu'il est mort, il nous a pardonné, aussi certainement qu'il est ressuscité. La justification de Dieu nous est parvenue. C'est la vraie foi biblique. Non pas ensevelie dans la tombe, mais ressuscitée ensuite avec Jésus-Christ notre Seigneur, pour marcher avec lui dans une vie nouvelle. Dans une vie nouvelle. Dieu est prêt à nous offrir cette nouvelle vie par grâce. Mais comment cela commence-t-il? En comprenant que l'ancienne vie, notre ancienne vie a pris fin et que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous avons été ensevelis avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui. C'est seulement ainsi que la vie nouvelle peut commencer en nous en tant que réconciliés. Ne pas croire que cela va seulement arriver demain ou après-demain ou bien dans le futur. Non, croire que cela est déjà arrivé et que cela nous sera accordé. Et c'est ainsi que cela nous sera accordé. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Et à cela s'ajoute la parole de l'Ancien Testament. Heureux le peuple qui peut pousser des cris de joie. Heureux le peuple qui connaît l'Éternel son Dieu. Nous connaissons Dieu et nous avons été reconnus par lui. Nous sommes sa propriété. Et aujourd'hui, nous ne nous ferons pas prier pour lui offrir les remerciements qui lui sont dus. Aujourd'hui, nous voulons tous ensemble remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Levons-nous et adorons. Dieu fidèle, nous te remercions profondément pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nous n'avons pas entendu des contes de fées. Nous avons entendu la vérité. Nous avons entendu ta parole. Seigneur, nous savons, Seigneur, ce qui a été accompli pour nous sur le bois de la croix à Golgotha. Nous savons, Seigneur, que nos péchés, nos fautes et tout le reste ont été pardonnés. Nous sommes devenus libres, Seigneur. S'il y a encore quelqu'un parmi nous, demandons ensemble pour cette personne que tu veuilles la libérer et mettre dans son cœur la certitude qu'elle t'appartient. Qu'elle t'appartient. Dès qu'elle aura accepté ta parole, confessé ses péchés et compris, Seigneur, que tu as payé le prix sur le bois de la croix à Golgotha. Seigneur, nous examinons tous une fois de plus. Nous voyons, Seigneur, que nous étions autrefois éloignés de toi. Mais maintenant, nous avons été rapprochés. C'est pourquoi nous te donnons l'honneur, la louange, la gloire et l'adoration. Car ce n'est pas de nous, Seigneur, que cela est arrivé, mais par ta grâce, par ta venue et par ton départ, par ta mort, par ta résurrection, nous sommes devenus des hommes nouveaux. Alléluia. Louange et action de grâce, gloire et adoration à ton nom merveilleux. Nous te prions maintenant avec ferveur. Bénis-nous aussi cette nuit. Seigneur, sois avec nous et réunis-nous demain encore dans la bénédiction. Nous te le demandons, Seigneur. Aide-nous tous. Tiens aussi tes mains protectrices sur nous, Seigneur. Et bénis-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.